La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Migrants, exilés, réfugiés, sans-papiers, allochtones, belges ou français de souche, intégration, diversité, multiculturalité. Autant de mots qui circulent lorsqu'on aborde la question de la migration. Mais que se cache-t-il derrière ces mots et qu'est-ce que ces mots nous disent de notre réalité? On va décrypter ça ce soir.
Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan.
Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir deux linguistes qui ont dirigé un livre qui vient de sortir, « Penser les mots, dire la migration » aux éditions Academia. Alors tout d'abord, Laura Calabrese, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes titulaire de la chaire de communication multilingue à l'ULB où vous enseignez l'analyse du discours, la sociolinguistique et la communication. Et donc vous êtes avec Marie Vénard, bonsoir.
Bonsoir.
Les deux auteurs, donc, enfin les deux directrices de ce livre, éditrices de ce livre. Donc vous, Marie Vénard, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris Descartes. Et ce livre, donc « Penser les mots, dire la migration », il donne lieu aussi à une exposition qu'on va pouvoir voir à l'ULB, mais ailleurs aussi en Belgique et en France par la suite. Et à vos côtés, nous avons également le plaisir de recevoir Julie Simon. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargée de communication à ULB Coopération, l'ONG de l'Université Libre de Bruxelles. Et en fait, on a voulu vous inviter aussi parce que vous étiez, en tant que ULB Coopération, co-organisateur d'une conférence qui a eu lieu cette semaine, une conférence qui s'intitulait « Migration, les mots pour le dire », avec donc Laura Calabrese et Marie Vénard. Donc une conférence qui entrait dans la campagne 11-11-11 qui a lieu en ce moment. On parle beaucoup de coopération, développement, et quand on en parle, finalement, on a plutôt tendance à parler de, ben, des pays en voie de développement, des pays plutôt du Sud. Mais pour vous, à ULB Coopération, le travail, il doit se faire aussi au Nord, c'est ça?
Oui, oui, tout à fait. Alors évidemment, le gros de nos projets se situe au Sud, pour nous, surtout au Congo, Sénégal et Burkina Faso. Mais il y a tout un travail au Nord qui fait partie de la sensibilisation à la coopération au développement, qui est de l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, comme on dit. Et donc, c'est fondamental ici de discuter de la coopération au développement pour sensibiliser les personnes à ces thématiques de solidarité mondiale, aux inégalités Nord-Sud et à ce qu'on peut mettre en place chacun à son échelle ici.
Alors, l'exposition, la conférence qui a eu lieu cette semaine, elle visait notamment à décrypter un peu les mots, le vocabulaire qu'on utilise quand on parle de migration. Ça fait partie vraiment de l'éducation que vous voulez faire auprès des étudiants, notamment, qui sont peut-être votre cible première.
Oui, oui. Alors, nous, on n'est pas linguistes, évidemment, mais on fait bien sûr attention aux mots qu'on utilise, mais la thématique des migrations est une thématique qui est transversale, évidemment, à tous nos projets, que ce soit au Nord ou au Sud. On l'aborde, par exemple, par des moments de théâtre-débat, des ciné-débats, ou des conférences-débats où toutes ces thématiques peuvent être abordées avec la communauté universitaire principalement, des étudiants mais aussi des chercheurs, des académiques et toutes nos activités au Nord sont co-organisées avec la communauté universitaire comme ici pour l'exposition de Laura Calabrese où c'est dans une dynamique à deux qu'on co-construit quelque chose qui peut être intéressant pour les étudiants et plus largement pour les citoyens.
Oui, c'est peut-être une manière de vous distinguer aussi, de différencier d'autres ONG. C'est vrai qu'il y a vraiment cet ancrage universitaire qui est très fort chez vous.
Oui, systématiquement au Nord, on essaye d'inclure la communauté universitaire en tant que co-organisateur des événements, mais les étudiants aussi par les cercles d'étudiants. Donc cette semaine et encore hier, une conférence sur le genre et les migrations qui a été fait avec un cercle d'étudiants. Mais on intègre aussi l'université dans nos projets Sud, c'est une de nos caractéristiques, dans le sens où chaque projet qu'on met en œuvre, on essaye d'avoir vraiment une forte validité scientifique, mais un vrai appui technique dans ce qu'on met en place au Sud. Et on a plusieurs exemples, on collabore beaucoup avec l'hôpital Erasme, ou avec ici Polytech, avec la Pharma, avec les architectes. Dans tous nos projets, il y a des échanges qui peuvent être très fructueux là-dessus.
En tout cas, on aura l'occasion de parler un peu plus tard dans l'émission de différents projets que vous menez, notamment en République démocratique du Congo, au Sénégal, au Burkina Faso. Donc on en parlera dans un instant. Mais parlons peut-être maintenant un peu des mots, justement. Alors qu'est-ce qui vous a poussé, vous, Marie Vénard et Laura Calabrese, à pourquoi s'intéresser aux mots liés à la migration aujourd'hui?
Alors la principale raison, c'est parce qu'il s'agit de mots dont on parle tout le temps.
Donc on ne parle pas uniquement de la réalité, on ne les utilise pas uniquement pour parler du réel, mais plein de gens parlent des mots eux-mêmes. Et il y a énormément de débats autour de ces mots. Donc ça veut dire que ces mots, ils cristallisent des tensions sociales particulières. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu se pencher sur une série de mots de manière pas du tout normative. Donc non pas pour les définir ou pour dire quelle est notre vision des choses, mais pour suivre ces mots dans leur parcours et dans leurs évolutions.
D'accord. C'est vrai que, par exemple, il y a deux mots dont on parle beaucoup, c'est migrant et réfugié. Et c'est vrai que ces deux mots, on a l'impression qu'ils cachent beaucoup d'autres choses. Enfin, c'est-à-dire que j'ai l'impression que migrant aujourd'hui est connoté assez négativement. C'est le politique qui va parler de migrant, alors que, par exemple, des citoyens, des hébergeurs vont plutôt parler de réfugiés. Est-ce que ça, vous le constatez partout ? Est-ce que cet exemple de migrant et réfugié est assez symptomatique de ce qui existe là-dessus ?
Oui, c'est un bon exemple qui illustre bien la complexité des phénomènes sémantiques. C'est vrai que le discours politique nous impose cette dichotomie, les migrants d'un côté, les réfugiés de l'autre. Les uns seraient des gens qu'on souhaiterait accueillir, les réfugiés, et puis les autres des gens qu'on ne souhaiterait pas accueillir, qui n'auraient pas de raison de venir, les migrants, parce qu'ils viendraient pour des raisons économiques. Nous, le projet qu'on voulait faire, pas donner des définitions dictionnaires, mais vraiment observer ce que font les gens quand ils utilisent les mots, on voit bien que ce mot de réfugié, il a plusieurs sens et que ça, c'est souvent passé sous silence. Le mot réfugié, il a un sens politique et défini par la Convention de Genève. C'est un statut qui s'obtient ou non après examen d'un dossier. Mais il a aussi ce sens de personne qui cherche refuge. Et si la polémique s'organise dans une opposition entre réfugiés et migrants, eh bien forcément, ça sélectionne un seul sens de migrant, qui est ce sens de la Convention de Genève, qui existe, mais n'oublions pas les autres sens. Et en fait, la polémique, elle est beaucoup plus complexe que cette opposition pourrait le laisser penser.
Mais du coup, le risque, est-ce que ce n'est pas aussi de perdre une partie du sens du mot ? Parce que, par exemple, réfugié, c'est lié, vous l'avez dit, à un certain statut. Et quand on parle de réfugiés aujourd'hui, ce sont des gens qui arrivent, qui sont en fait des migrants. Est-ce que, du coup, on ne s'embrouille pas un peu aussi ? On perd parfois peut-être un peu le statut du mot, le statut juridique du mot ?
Mais alors, il faut d'abord partir du fait que les mots n'ont pas des sens figés, justement, et que ce ne sont pas des étiquettes que l'on colle au phénomène de la réalité. Donc, en fait, ce que nous, on appelle maintenant des réfugiés ou ce que nous, on appelle maintenant des migrants, avant, c'était appelé différemment, et dans 100 ans, ce sera appelé différemment. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de réfléchir à notre usage des mots, parce que ça nous montre que les mots, en quelque sorte, créent le réel. Donc, le fait que ces deux catégories soient aujourd'hui plus ou moins figées, ça nous fait, elles sont tout à fait naturalisées dans notre esprit, et donc on finit par croire qu'il existe dans le monde des migrants et des réfugiés. Et en fait, quand on se penche sur toutes ces polémiques sémantiques, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres mots qui apparaissent. Et donc, en 2015, on a beaucoup débattu sur les mots migrants et réfugiés. Et là, on s'est rendu compte, avec Marie, mais avec les autres collègues et avec lesquels on travaille sur ce genre de mots, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres mots que les gens utilisaient pour se référer à ces personnes qui se déplacent en ce moment. Par exemple, on peut dire les exilés, on peut dire les invités, même les artisans, on les appelle parfois. Donc, en fait, on a le choix. Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des grands discours qui circulent énormément dans notre société, notamment le discours politique, le discours médiatique, qui vont nous offrir un répertoire de mots. Et nous, on va finir par utiliser ces mots de manière tout à fait naturelle, parfois en oubliant que peut-être on veut appeler les choses autrement.
Et du coup, c'est qui est finalement à l'initiative ? C'est les médias alors qui seraient à l'initiative de tel ou tel vocabulaire, tel ou tel mot ?
Pas que les médias. Alors, il y a des acteurs dans la société qui sont chargés de nommer les choses. Hein. Ici, en l'occurrence, il y a beaucoup de mots qui viennent du discours juridique.
Oui, il y a beaucoup de mots qui viennent du discours juridique, mais c'est vrai que les pratiques des médias sont quand même assez impactantes dans la perception que les gens ont de la réalité. Donc par exemple, si on prend un mot comme exilé, c'est un mot que certaines associations, certains militants utilisent pour parler des migrants réfugiés. Et on le voit de temps en temps dans la presse, donc ça veut dire que les journalistes sont allés aux côtés de ces personnes, aux côtés des militants, et ont changé leur pratique de nomination. Mais c'est vrai que y a un petit peu cette idée du mot juste. Et une fois qu'on aurait trouvé ce bon mot, il n'y aurait qu'un seul mot juste. Et ça, je pense que c'est pour ça que se mettent en branle toutes ces polémiques qui, au final, finissent par être des événements de discours, mais dans la réalité, il y a toute la réalité qui est bien différente. Et là, moi, j'invite les auditeurs à consulter les travaux d'Hélène Thiollet, qui dit bien que, par exemple, le Haut Commissariat aux réfugiés parle de flux mixte avec des réfugiés, des migrants, et que les gens peuvent être considérés comme migrants, puis vouloir déposer l'asile et donc aspirer au statut de réfugié. Tout ça, c'est très fluctuant. Mmh. Et ce que fait cette polémique, c'est de réifier. Et par rapport à cette réification, je pense que ce que les gens peuvent faire, ce que je les inviterai à faire, c'est de chercher un mot suffisamment bon. Pas le mot juste, mais un mot suffisamment bon qui ait fait l'objet d'une réflexion consciente et d'un choix informé par rapport à la réalité et par rapport au sens et à l'usage des mots.
Alors, je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez dit sur les mots justes. On entend souvent ce discours de « oui, mais il faut utiliser les mots justes ». On entend souvent des gens qui disent ça, mais et en même temps, quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de mots justes, ou ils évoluent en tout cas.
Il n'y a pas de mots justes, justement. Alors ça, c'est une image que les journalistes utilisent beaucoup parce que c'est lié aux routines journalistiques et parce qu'ils travaillent avec des manuels de style et avec des listes de mots, oui, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'on ne va plus dire. Bon, ça, c'est la preuve que les journalistes réfléchissent énormément aux mots qu'ils utilisent. Mais en même temps, il y a un besoin réel d'utiliser un vocabulaire plus ou moins stable, puisqu'il faut savoir de quoi on parle, puisqu'on ne peut pas changer les mots tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment lié à leur travail. Mais c'est une illusion de croire qu'il existe des mots justes, parce que quand on y réfléchit un peu et quand on observe les polémiques sémantiques, il y a plein de fois où les gens disent que les mots ne sont pas importants. Il y a plein d'exemples qu'on a trouvés, les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques, les journalistes aussi. Bon, d'accord, quels que soient les mots qu'on emploie, voilà, la réalité, elle est là. Oui. Ouais. Donc, il faut confronter ces deux images qu'on a du langage. Parce que ce sont deux usages du langage qui sont tout à fait différents. Donc, quand on fait appel à cette image du mot juste, ça veut dire que pour moi, ce mot ou cette série de mots est très importante. Voilà, et j'imprime aussi ma marque et je dis voilà, ça ce sont les mots qu'il faut utiliser.
Voilà, donc oui. En politique, on va parler de migrants, de transmigrants, en disant que c'est ça le mot juste, si c'est cette idée-là qu'il veut transmettre éventuellement, par exemple.
Exactement, mais en fait, ce sont des réalités sociales qui sont tellement complexes. Alors, on pourrait éventuellement parler de mots justes pour dire voilà, ça c'est une tasse, c'est pas une bouteille, oui, parce que c'est une convention sociale. Mmh. Mais quand il s'agit de phénomènes sociaux qui sont extrêmement complexes, alors on se rend compte qu'ils sont définis, redéfinis et débattus en permanence et que donc il n'y a pas de mots justes.
Alors on voit aussi que ces mots évoluent, et donc pour revenir par exemple au vocabulaire journalistique, vous citez comme exemple les recommandations pour l'information relative aux allochtones dans le livre, et donc ce sont des recommandations adressées aux journalistes, et donc avant ça s'appelait recommandations pour l'information relative aux allochtones, et maintenant c'est devenu recommandations pour l'information relative aux personnes étrangères ou d'origine étrangère. Donc c'est-à-dire que quoi, ce terme d'allochtone aujourd'hui ne signifie plus rien?
Ah si, il est tombé en disgrâce justement, et c'est pour ça qu'il est, il est sorti de circulation. Alors c'est un terme qu'on utilise pas en France, qu'on a utilisé à un moment donné en Belgique francophone, et on l'utilise encore, hein, on l'a importé du néerlandais. Mais c'est un terme qui, justement, il a pris tellement de connotations négatives qu'il a fini par sortir de circulation. Donc, voilà, c'est l'opposé de autochtone. Donc, c'est celui qui n'est pas d'ici, qui n'est pas né ici. Et donc, du coup, mais c'est une étiquette qui s'hérite que les enfants héritent de leurs parents. Donc, même si les gens sont nés ici, ils sont toujours des allochtones parce que leurs parents... donc, effectivement, ça montre l'évolution du lexique pour parler des personnes.
Ouais, oui, par exemple, je ne sais pas si c'est dans le livre ou dans un autre contexte, je vous entendais parler du mot nègre, par exemple, qui aujourd'hui est totalement politiquement incorrect. On ne peut plus dire le mot nègre, alors qu'à une certaine époque, il avait un certain sens, mais qu'on ne l'utilise plus.
Il a un sens. Alors, le problème,
il a toujours
avec
un sens, mais disons
mots,
qu'il a un sens connoté négativement.
Voilà. Alors, c'est un cas un petit peu différent de celui d'allochtone. Donc là, le problème avec le mot nègre, c'est qu'il a été utilisé dans des contextes et par des personnes dans le cadre d'un discours raciste. Oui. Et à partir du moment où ce discours raciste, il est plus toléré socialement, alors le mot, il sort de circulation. C'est un petit peu ce qui se passe avec français de souche ou belge de souche.
Oui, d'ailleurs, c'est un des points effectivement que vous développez dans le livre, cette question de... Là, vous êtes plutôt sur français de souche, mais on pourrait l'élargir à belge de souche, j'imagine. D'où vient cette expression, finalement, français de souche?
Alors oui, c'est notre collègue Sonia Brancarozov qui développe français de souche, et elle cite des emplois où cette expression était parfaitement utilisée. Alors d'abord, on disait une famille de bonne souche. Donc ça posait aucun problème, en fait. Il n'y avait pas de connotation négative. Le général de Gaulle a parlé de français de souche. Dans le contexte de la guerre d'Algérie. Donc déjà, vous voyez qu'on se rapproche un peu de contexte avec des enjeux raciaux. Ce que montre Sonia Brancarozov, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce mot, il est à la fois stigmatisé parce que trop utilisé par des discours d'extrême droite. En même temps, elle monte dans un corpus d'interviews sur de gens qui parlent de leur quartier à Paris, que ce mot est utilisé notamment par des personnes d'origine étrangère, donc notamment par exemple des personnes d'origine africaine, qui disent aussi elles-mêmes les Français-Français, les Franco-Français. Donc il y a toute une variation autour de différentes manières d'exprimer cette idée-là. Mmh. Et même quand cette idée, elle n'est pas explicitement... nommé par un mot, les personnes peuvent utiliser « il », ce qui renvoie à l'autre, l'altérité. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours une tension entre des mots qui sont un peu brûlés par l'usage, c'est le cas d'allochtone, c'est le cas de français de souche, et puis cette nécessité qu'on a de catégoriser. Ouais. Et donc, tant bien que mal, il faut bien trouver un équilibre entre les deux. C'est pour ça que quand je parlais de mots suffisamment bons, c'est ça. C'est le mot qui va permettre de faire une action qui est le moins offensant possible, qui a été réfléchi, mais qui n'est pas le mot juste, parce que ça n'existe pas, effectivement.
Oui, parce qu'effectivement, on a besoin de catégoriser. On a besoin de ça, à un moment, de classer les choses, d'avoir des briques pour reprendre un peu l'expression que vous reprenez dans le livre et dans l'exposition. C'est nécessaire.
Oui, alors ce qui est intéressant avec... effectivement, c'est nécessaire, on a besoin de catégoriser et on le fait même sans le langage. Hein, la catégorisation, c'est un acte cognitif et donc on peut, par exemple, catégoriser les gens qui portent quelque chose de jaune dans une rame de métro, les gens grands sans forcément, mentalement verbaliser cette catégorie. Après, la question, c'est de ces catégorisations qui existent, comment les nommer, en fait. Et je crois que l'erreur qu'on fait souvent, c'est de penser, c'est toujours cette idée du mot juste, mais comme si au fil d'un texte, qui fait 10, 20 lignes, plus peut-être, on allait pouvoir n'utiliser qu'un seul mot. Or, par ailleurs, on dit bien dans tous les bons manuels de rédaction qu'il faut varier son vocabulaire. Donc vous voyez que on dit on dit le mot juste et en même temps varier votre vocabulaire. Donc essayez de trouver votre place dans ces deux injonctions contradictoires.
Oui, tout à fait. Alors je voudrais qu'on refasse une petite parenthèse, même si évidemment tout est lié parce que on l'a dit, les activités du LB coopération, elles se font au nord comme au sud, et d'ailleurs là aussi, je pense que nord-sud, vous me le dites, disiez juste avant l'émission, le roc à la braise, c'est aussi une manière de catégoriser et qui c'est une manière de voir aussi le réel.
Oui, tout à fait. Déjà, la manière dont on... La carte est une manière de catégoriser le monde, ce qui est en haut et ce qui est en bas. Alors qu'on ne sait pas qu'il n'y a pas de nord et de sud dans l'espace.
Alors disons que ici on va catégoriser et on va parler des activités du Nord du LB Coopération, et c'est notamment donc tout ce travail sur les mots ici, mais il y a évidemment plein d'autres activités que vous faites dans le Nord pour conscientiser à la solidarité envers les étudiants, la communauté universitaire, mais vous faites aussi du travail dans le Sud, on va l'utiliser juste pour aujourd'hui, et il y a un projet qu'on avait relevé qui était un projet en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu?
Oui, bien sûr. C'est le projet PADIS. C'est un projet d'appui au développement intégré du système de santé du Nord Kivu. Mm-hmm. C'est vraiment un superbe projet à très grande échelle, mais qui s'intègre dans un contexte qui est très particulier, le contexte du Kivu, qui a connu, la population a connu plusieurs guerres depuis une vingtaine d'années. La pauvreté est patente. Il y a des risques écologique. Il y a un gros volcan, le Nyiragongo, qui est là tout près et qui a encore explosé en 2002, je pense, la dernière fois, avec de grosses coulées de lave qui viennent sur Goma. Le système de santé est évidemment sous-financé là-bas. Les infrastructures sont dans des états catastrophiques. Les centres de santé, les hôpitaux, les personnels sont vraiment sous-formés aussi, pas suffisamment formés. Et il y a d'autres phénomènes d'urbanisation croissante, mais à grande échelle, la ville de Goma est toute transformée par rapport au modèle de santé qui était développé il y a une trentaine d'années. Mmh. Et donc, dans ce contexte-là, le projet agit sur plusieurs niveaux de manière simultanée. C'est un puzzle, c'est pas séquentiel. On travaille là avec une vingtaine de personnes qui sont mobilisées, l'équipe du LB Coopération. Une des caractéristiques de cette équipe, c'est que ce sont quasi exclusivement des personnes locales, des Congolais, et que le projet est mené par deux médecins congolais. Okay. On travaille à une échelle de 7 millions de personnes. La province du Nord Kivu, c'est 7 millions d'habitants.
Oui, et alors, ça paraît énorme, évidemment.
Oui, c'est énorme. C'est énorme quand on compare à la Belgique, par exemple. Et on travaille d'abord sur la qualité des soins, à améliorer la qualité des soins par un renforcement des formations, mais aussi par un renforcement des infrastructures et des équipements. Sans ça, les soins ne peuvent pas s'améliorer. Alors, il y a des problèmes de formation parce qu'il y a plusieurs facultés de médecine qui se sont développées un peu comme ça partout en RDC. Il y a beaucoup, beaucoup de diplômés médecins, mais qui n'ont pas nécessairement les compétences requises pour être de bons médecins. Donc, on contribue aussi à la formation, à la création d'un centre de formation continue sur Goma, qui permettra donc de la formation clinique, mais aussi des formations complémentaires de gestion, de sécurité, et donc pour arriver à avoir un corpus de personnel compétent pour pouvoir assurer ça. Il y a tout un problème d'accessibilité des soins géographiques. Donc, la province est très, très vaste. Il y a des coins très reculés où il n'y a pas de centre de santé, ou alors le centre de santé, c'est une pièce délabrée avec une table, et voilà. Et l'accessibilité géographique est évidemment fondamentale que pour pouvoir avoir accès aux soins. L'accessibilité financière aussi, c'est une autre grosse question qui fait partie d'une question de recherche aussi en lien avec l'université, de comment mettre en place un système d'assurance maladie universelle. Est-ce que c'est adaptable là-bas? Non, enfin bon, c'est un vaste sujet de recherche.
Et c'est des sujets sur lesquels l'ULB envoie elle-même des chercheurs, des médecins. Enfin, il y a des gens de l'ULB qui vont sur place, qui forment éventuellement sur place.
Tout à fait. Oui, il y a des interactions vraiment très fréquentes entre l'ULB et ce projet à Goma. Il y a beaucoup, beaucoup d'interactions entre l'hôpital Erasme et ce projet, parce qu'il y a des médecins et d'autres professions paramédicales qui viennent pour faire des formations là-bas de manière régulière, pas juste des one-shots, mais de manière régulière. On a eu une superbe collaboration aussi avec l'architecture de l'ULB, pour la construction et la réhabilitation de bâtiments, hôpitaux ou centres de santé. Il y a toute une réflexion sur la durabilité qui a été mise en place. La population qui a été inclus dans réfléchir à quel type de centre de soins de santé serait nécessaire. Population qui a elle-même contribué à la construction d'une manière ou d'une autre de beaucoup de centres de santé. Oui, il y a encore d'autres.
Ouais, mais donc oui, on voit que c'est un projet très vaste en tout cas.
Oui.
Et est-ce que c'est un projet, voilà, si nos auditeurs vous écoutent, nous écoutent, s'ils ont envie de participer à ce genre de projet, vous avez, enfin, j'imagine qu'on peut avoir toutes les informations sur votre site et que il y a des appels à des dons, ou est-ce que vous fonctionnez uniquement avec les fonds de l'université? Comment ça se passe?
Non, on fonctionne pas avec les fonds de l'université. On fonctionne avec des fonds pour ce projet PADIS, principalement de l'Union européenne, mais aussi de la coopération belge. Mais évidemment, on participe à la récolte de fonds, à l'opération 11-11-11 qui a lieu actuellement. Et donc, bien sûr, cette opération 11-11-11 permet une fois par an de mettre vraiment le focus sur l'importance de la coopération internationale. Et par ailleurs, de récolter des fonds, vu que les deniers publics se font de plus en plus rares autour de cette thématique-là. Donc oui, les gens peuvent effectivement donner. Et c'est aussi un vivier. On accueille régulièrement des mémorants, des stagiaires, des doctorants pour l'ensemble de nos projets. Donc les manières de s'impliquer sont diverses.
D'accord. Mais en tout cas, j'imagine qu'on peut trouver toutes les informations sur votre site, donc ULB Coopération. On arrive déjà vers la fin de cette émission, mais je voudrais revenir sur la question des mots et des mots de la migration. Il y a un livre, donc il y a le livre Penser les mots, dire la migration. Il y a une exposition. Quel est l'objectif que vous menez avec cette exposition? Est-ce que vous voulez sensibiliser, faire changer, enfin, est-ce que les gens se conscientisent et réfléchissent aux mots qu'ils utilisent quand ils parlent, ou toute autre chose?
Mais il y a pas du tout une intention, enfin il y a pas de message caché en tout cas. Tout ce qu'on veut, c'est oui que les gens réfléchissent aux mots, ça c'est clair, hein, parce que le langage, c'est tout de même notre interface avec le monde, hein. C'est pas la seule, mais c'est une des plus importantes. Et donc oui, on veut une prise de distance. Donc, quelle que soit la vision qu'on a des migrations, il faut que l'on puisse réfléchir aux catégories que l'on utilise pour se référer à ce phénomène, et pas que à ce phénomène d'ailleurs.
Oui, effectivement, conscientiser ses usages. Et je pense que j'aimerais bien citer ce que dit le linguiste Paul Ciblot, qui dit « Quand je crois nommer l'objet du monde ou la personne, c'est mon rapport à lui qu'en réalité je nomme. » Donc je pense que cette idée de rapport à lui, c'est ça qui doit être interrogé. Quand je dis migrant, quand je dis transmigrant, quand je dis réfugié, quel rapport j'instaure avec cette personne.
D'accord. Avec effectivement aussi toute cette... on voit dans l'exposition les termes qui ont évolué. Alors, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai pointé une des choses qui m'avait marqué juste en voyant l'exposition comme ça, c'est ce terme d'émigré. Donc, en 1842, dans les dictionnaires, les émigrés, c'était en fait les nobles qui quittaient la France au moment de la Révolution. Donc, on ne parlait pas du tout de personnes étrangères, par exemple. Et ça, c'est un exemple, je trouve, assez marquant de comment un mot peut évoluer et se connoter positivement ou négativement au fil de l'histoire.
Oui,
ou changer son sens aussi.
Oui. C'est sûr que le réel influe le langage. Et dans l'exposition, on a repris les définitions de dictionnaire du 19e. Et tous les émigrés, les immigrants, les immigrés sont en fait des Européens qui partent au Nouveau Monde, en Amérique, à cause de, voilà, des difficultés économiques en Europe. Donc c'est bien là que, voilà, on voit que ça...
Donc il n'y a pas que le sens qui change, le référent du mot, donc ce à quoi le mot réfère change aussi. Et ça influe sur la signification du mot, forcément.
Et quand on parle du poids des mots, c'est une expression évidemment qu'on entend beaucoup. Alors on a parlé tout à l'heure des mots justes, mais le poids des mots, est-ce que du coup les mots ont vraiment un poids? Est-ce que ce poids est plus fort aujourd'hui qu'avant?
Ah, il n'y a pas une réponse absolue à cette question. Donc, ça dépend des mots, ça dépend des contextes. Alors, si vous demandez aux linguistes, les linguistes, ils vont vous répondre, le poids des mots, ça dépend du contexte, ça dépend du mot déjà. Il y a des mots qui ont beaucoup moins de poids que d'autres, bien évidemment. Donc, tous les mots qui réfèrent à des phénomènes sociaux vont avoir, alors, plus de poids. Ça veut dire quoi, un poids? Ça veut dire des significations tendues, des significations qui mettent des gens mal à l'aise, qui avec lesquels tout le monde n'est pas d'accord. Mmh. Donc c'est une métaphore. Alors moi j'invite vraiment les gens à interroger cette métaphore pour voir ce que ça veut dire pour eux.
Pour eux.
C'est quoi le poids des mots? Voilà.
Et bon, on va terminer là-dessus. Donc, interrogez-vous sur ce que ça signifie pour vous, le poids des mots. Et pour vous y aider, vous pouvez lire l'ouvrage donc, de Laura Calabrese et Marie Vignard. Donc, un ouvrage que vous dirigez et évidemment beaucoup d'autres personnes qui ont participé à cet ouvrage. Et donc, l'ouvrage s'appelle « Penser les mots, dire la migration ». Il a été publié aux éditions Academia. Merci à toutes les deux. Donc, il y a aussi l'exposition qui va tourner d'abord à l'ULB, puis ailleurs. Merci à Julie Simon, chargée de communication à ULB Coopération. Et donc, on l'a dit, si vous avez l'occasion de participer à cette campagne 11-11-11, ce serait bien. Voilà.
Merci
à toutes les trois et bonne soirée à tous.
En quête de sens
sur la première.